France Inter. Le 7-10.
Et Léa, ce matin, vous recevez le chanteur qu'on vient d'écouter.
Qui est aussi poète. Bonjour Arthur Teboul.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez une chanson, justement, un vers, un homme d'État et un sentiment, vous seriez qui, vous seriez quoi? Alors on commence par la chanson.
Une chanson, probablement une chanson de Neil Young, Heart of Gold. J'aime beaucoup cette musique des années 70. C'est une musique aussi que j'écoutais avec mon père dans la voiture.
Il y a beaucoup de questions. Un verre.
Un matin, nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancunes et de désirs amers. Et nous allons, suivant le rythme de la lame, berçant notre infini sur le fini des mers. C'est de Baudelaire dans Le Voyage.
Un homme d'État.
Churchill. Bon, classique, ouais. On aime bien le panache et le whisky.
Ah oui. Et un sentiment, vous sauriez quel sentiment ce matin?
Ce matin, je suis la joie. Mais mon terreau est plutôt la mélancolie, alors je balance.
Bah, c'est la joie d'être triste, la mélancolie.
Ouais, les bras du bien quand le mal est beau.
Arthur Teboul, je suis très heureuse de vous recevoir ce matin parce que ça fait écho à notre première rencontre il y a tout juste un an. Vous, le chanteur du groupe de rock à la mode, Feu Chatterton, vous veniez présenter votre premier recueil de poésie publié dans la prestigieuse maison d'édition Segers, qui a publié en leur temps Aragon et Éluard. Ça s'appelait Le Déversoir, ce premier recueil de poèmes. Un livre qui a eu un grand succès, à la fois critique et populaire. Je suis ravie de vous recevoir pour évoquer la suite puisque vous sortez le second recueil, L'Adresse, toujours aux éditions Segers. En fait, c'est un peu une histoire qui continue dans ce studio de France Inter.
Oui, c'est vrai, c'était il y a un an pile et vous aviez participé aussi à ce premier élan parce qu'en parallèle du livre, j'ouvrais un cabinet de poèmes minutes, de poésie dans Paris. Et juste après l'émission qu'on a faite ensemble, des gens sont arrivés d'un peu partout.
Et ben on va raconter, parce que c'est ce que vous racontez dans ce deuxième recueil, c'est cette expérience. Pendant une semaine, vous avez ouvert un lieu à Paris où vous accueillez les gens qui venaient s'asseoir devant vous et vous leur écriviez un poème. On va en parler dans un instant, on va parler du livre, on parlera aussi de Feu Chatterton, parce que vous donnez une série de 3 concerts qui se terminent ce soir au Louvre. Ouais. Ça doit être fou, ça, de jouer au Louvre, au milieu du Louvre.
Oui, d'autant qu'on a eu une résidence pendant plusieurs mois là-bas, donc on a eu l'occasion de s'imprégner de l'endroit et qu'on présente de nouveaux morceaux qui ont été inspirés par le Louvre. Donc il y a quelque chose de familier, quelque chose qui s'achève aussi de toute cette aventure au Louvre avec les équipes, donc c'est assez émouvant. Et ce soir, dernier concert. Là-bas.
C'est la dernière. Ouais. Mais avant tout ça, je sais qu'on l'a beaucoup entendu, mais j'avais envie quand même de repasser quelques secondes juste pour le plaisir, Arthur Teboul. On est le 21 février dernier au Panthéon.
Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous étiez servi simplement de vos armes.
Vous avez chanté ce poème d'Aragon, mis en musique par Léo Ferré, pour l'entrée au Panthéon du résistant Missak Manouchian, de sa femme Mélinée, de ceux de l'affiche rouge. Vous avez ému la France entière. Un mois après, l'émotion, elle est intacte.
Oui, il s'est passé quelque chose. Sans doute du fait qu'on porte cette chanson avec le groupe depuis plusieurs années, qu'elle est arrivée dans notre vie d'homme et d'artiste par hasard, et que c'est elle qui nous a conduits là, sur les marches du Panthéon. Donc on s'est senti comme poussé par le message qu'on avait à transmettre. Cette chanson qui avant, quand on la jouait sur scène, en tournée déjà, nous remuait intérieurement. Ça résonne avec nos histoires intimes, ça résonne aussi universellement, parce que les mots de Missak Manouchian dans sa lettre, sublimés par le poème d'Aragon, renouvelés par la musique de Léo Ferré, touchent tout le monde. Quand on se retrouve à quelques minutes peut-être d'une mort certaine, qu'on est capable d'écrire « Je meurs sans haine en moi » pour le peuple allemand, et quand je serai plus là, je veux que tu sois heureuse et que tu fasses un enfant que je n'ai pas pu te donner, je vois la belle lumière sur la colline, voilà, j'en frissonne encore.
Nous aussi. Cette cérémonie a été suivie par des millions de spectateurs à la télé qui vous ont découvert, vous, Arthur et Feu Chatterton, que certains avaient classé comme un groupe d'élitistes parisiens. Là, vous avez touché le grand public, le côté populaire. C'est quelque chose que vous aimez, vous êtes content aussi qu'on vous ait découvert, qu'il y ait des gens qui ne vous connaissaient absolument pas, qui n'écoutent pas France Inter et qui ne connaissent pas Feu Chatterton et qui découvrent finalement c'est ce groupe de 5 jeunes qui chantent Ferré.
Oui, évidemment, parce que pour nous, il y a comme un quiproquo qu'on espérait un jour pouvoir...
Le casser.
Ouais, c'est ça. Il faut être patient dans la vie. En fait, ça fait 15 ans qu'on a le groupe et qu'on tourne partout en France, dans toutes les villes, toutes les salles, et on sait très bien que le public qui vient est un public varié, familial.
Bobo parisien.
Bah non, ça ferait trop de personnes, quoi. Ouais. Statistiquement, il y a un peu plus que ça. Et donc, on est confiant là-dedans. Maintenant, que les gens le sachent, le voient, que notre image, elle nous appartient pas vraiment. J'aime bien cette phrase de Sartre qui dit « Nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres font de nous ». Un peu complexe, mais c'est normal qu'une image nous échappe. Donc il faut être patient, il faut être confiant dans ce qu'on fait, ce qu'on cherche à faire. Et là, on a eu une chance incroyable ce jour-là de pouvoir délivrer devant beaucoup de monde quelque chose qui est vraiment nous, qui résonne profondément en nous.
Et je pense que plein de gens vous ont découvert ce jour-là et continuera à vous suivre. La poésie maintenant. Shakespeare écrivait « La poésie est une musique que tout homme porte en soi ». Vous êtes d'accord avec ça ou vous pensez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir accès à la poésie, qui sont... C'est pas possible.
Ah, je suis tout à fait d'accord avec ce...
Shakespeare.
Oui, bien sûr. Il y a aujourd'hui une forme de crainte et souvent la peur, les limites qu'on se met soi-même qui nous empêchent d'accéder à quelque chose. Et je suis prêt à défendre cette parole, ce que j'essaye de faire avec le cabinet de poèmes, avec l'écriture automatique. Je crois que
c'est qu'on peut avoir accès, tout le monde peut avoir accès à la poésie, c'est pas réservé là aussi à une élite.
Non, pas du tout.
Parce que vous ne venez pas d'un milieu élitiste, je veux dire, on lisait pas Apollinaire à table le soir.
Et c'est marrant d'ailleurs parce que dès qu'on arrive à s'approprier un peu le langage, qu'on dit lire de la poésie, les gens tout de suite pensent que vous venez d'un milieu extrêmement cultivé. C'est la preuve donc que c'est un savoir puissant, une arme enflammée, qui est à la portée de tous, qui demande peut-être un effort. Mais quand on dit que la poésie est accessible à tous, ça ne veut pas dire que tout le monde doit en écrire. En revanche, cette petite musique à l'intérieur, ce désir de raisonner avec le monde, à un moment, d'être attentif à ce qui se passe autour, d'accepter l'inconnu, de retrouver cette langue de l'enfance. On l'a tous en soi, on n'est pas obligé d'en écrire de la poésie. Mais lire cette langue qui nous détourne parfois du quotidien, de l'usure, de l'usage, retrouver l'esprit du jeu, jouer, c'est-à-dire accepter aussi de perdre. On a tous ce désir-là.
Alors jouer, c'est ce que vous avez fait. Donc on explique. L'adresse, ce nouveau recueil de très très beau, un très très beau livre vraiment avec des photos justement de cette expérience-là, raconte cette expérience que vous avez donc tenue pendant une semaine, il y a un an, rue Turenne à Paris. Vous avez découvert un endroit où du matin au soir, vous étiez là, assis sur une chaise devant un bureau avec juste des feuilles de papier et les gens rentraient. Et pendant 5 minutes, ils s'asseyaient devant vous. Vous ne parliez pas. Vous leur demandiez de regarder un tableau au mur parce que ça vous troublait qu'ils vous regardent. Et là, ce que vous avez ressenti vis-à-vis de cette personne qui rentrait, pendant 5 minutes, vous écriviez un poème que vous donniez à la personne à la fin.
Oui, en fait, j'écris de la poésie automatique depuis plusieurs années. C'était l'objet de mon premier livre. À l'époque, je ne pensais pas publier.
Voilà, selon la méthode de surréaliste, de Breton, c'est-à-dire ce qui passe par la tête, tu écris.
Ouais. Et ça aussi, c'est un exercice qui me faisait du bien, en fait. Et j'ai très vite pensé que ça pouvait être chouette de le faire en présence, avec quelqu'un, pour quelqu'un. Aussi parce que c'est une pratique qui est rapide et que dans le monde dans lequel on vit, réussir à créer un interstice de quelques minutes seulement, on peut plonger dans un monde parallèle, c'est rare. Alors, j'ai pendant plusieurs années pensé à cet endroit, à ce cabinet. Et l'année dernière, comme un rêve qui se réalise, on l'a pu le faire. Alors, il y avait un site internet de réservation en ligne, un peu comme Doctolib, et je recevais une trentaine, quarantaine de personnes par jour à la suite.
C'est ça, parce qu'en fait, vous avez écrit quasiment 250 poèmes pendant cette semaine-là. J'ai compté, hein, j'ai fait une petite division. Ça veut dire à peu près 34 poèmes écrits par jour à des inconnus, du matin au soir.
Oui, il y avait une forme d'ivresse, de fièvre ou de transe. Ce qui était très, très singulier. Et je pense que ça se reproduira, il faudrait qu'on le partage plus dans la vie, mais c'est rare de passer quelques minutes avec un inconnu dans le silence. Et en fait, ce moment d'attention, de délicatesse, où on n'a pas nécessairement le besoin de parler, où la pudeur peut être conservée, où le temps de l'écriture d'un poème, donc quelque chose se fait qui sera à vous, pour vous, eh ben, on accède finalement à une connaissance de l'autre, à une douceur, une humanité. Et ça, c'était juste une intuition, une hypothèse que j'avais avant le cabinet. Mais quand ça s'est réalisé,
et là,
c'est devenu une certitude.
C'est devenu une certitude qu'on a besoin de poésie dans une époque violente, dans une époque brutale. On fait une journée spéciale écran, là. C'est vrai qu'on est tout le temps sur les smartphones. Et vous, vous avez réussi à extirper les gens pendant 5 ou 7 minutes. Ça donne donc ces 236 poèmes qu'on retrouve dans ce livre-là. Et il y a aussi des photos de vous dans ce lieu de cabinet. Et puis, alors ça, j'ai trouvé ça génial. La deuxième partie du livre, c'est un questionnaire que vous avez envoyé à chacune de ces 250 personnes, que moi, c'est vraiment une histoire qui se raconte, c'est un fil. Vous leur avez envoyé 20 questions, où vous leur avez posé toutes sortes de questions. Qu'est-ce que vous avez fait des poèmes? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'ils étaient prémonitoires? Est-ce que vous vous êtes retrouvés dans le poème que je vous ai écrit, etc., etc. Et les réponses sont assez géniales, puisque, alors, à la question qu'avez-vous fait du poème, certains avouent l'avoir perdu, puis l'avoir retrouvé avant de l'encadrer. D'autres vous ont répondu, je le garde au fond d'un tiroir pour le revendre après ta mort chez Sotheby's. D'autres poétiques, j'attends de l'avoir oublié pour rouvrir l'enveloppe et le lire comme si c'était la première fois. Et donc, vous leur posez toute une série de questions assez géniales. Je vais vous en poser quelques-unes. Que vous leur posez, et répondez vite. Les Français vont chez le coiffeur en moyenne 4 à 5 fois par an. Selon vous, à quelle fréquence serait-il idéal d'aller chez le déverseur, chez celui qui vous écrit de la poésie? À votre avis?
J'irais bien 2 fois par an.
2 fois par an pour se faire écrire un poème. Croyez-vous qu'un poème, Arthur Teboul, puisse changer une vie?
Il a changé la mienne. La poésie a changé ma vie. C'est parce que j'écrivais des poèmes au lycée que j'ai rencontré mes camarades du groupe, qu'on a monté un groupe, que je me suis mis à chanter. Je suis obligé de répondre oui.
Là, oui. Croyez-vous que la vie ait besoin d'être changée? C'est une question aussi que vous posez aux gens.
Ouais, il y a des très belles réponses. Des gens qui disent non, elle a besoin d'être acceptée pour ce qu'elle est. Ou bien elle change de toute façon.
Ouais, et c'est vrai que les réponses à ces questions-là sont très belles. Pensez-vous qu'un poème minute puisse rivaliser avec un bouquet de fleurs?
Là, c'est un peu audacieux hein, comme question. Ça périme pas, en tout cas, c'est contrairement aux fleurs coupées.
Voulez-vous ajouter quelque chose, Arthur Teboul? C'est une question que vous posez aux gens.
Oui,
voulez-vous ajouter quelque chose à la fin?
Bah là, vous remerciez déjà. On se remercie pas souvent. Donc je vous remercie.
Ben moi aussi, je vous remercie. Il y a des poèmes de toutes sortes que vous avez écrits à la manière donc des surréalistes. Les titres déjà de ces poèmes sont magnifiques. C'est-à-dire que la personne qui se soit en face de vous vous inspire des titres comme « As-tu pris des nouvelles du monde ?» Ça, c'est un des titres. Ou encore « Les gens préfèrent de loin dormir dans des maisons ». Vous écrivez « Les gens préfèrent de loin dormir dans des maisons. Nous, nous avons choisi le labyrinthe, la belle étoile, la nuit dehors, à bivouaquer dans le plein soir. » Il y a encore un autre titre, « Dans la concrétisation du rêve. » Et chaque poème fait une page à peu près de ce livre-là. Et vous mettez l'heure où vous l'avez écrit. C'est-à-dire l'heure où la personne est entrée. C'est important de mettre l'heure. On n'écrit pas le même poème à 10h du matin qu'à 17h30.
Je crois, oui, je crois. D'ailleurs, c'était mon rituel. Je sortais pas du cabinet. Il y avait une salle d'attente, puis les gens arrivaient un par un. Et donc, je devenais obsessionnel, un peu maniaque. Et j'écrivais l'heure, je tamponnais le poème. Donc, c'était important pour moi de retrouver ça, un peu comme un carnet de bord ou des ordonnances. Mais aussi, pour une autre chose, dans le livre, il y a aussi une autre manière d'entrer dans les poèmes. Il y a un tableau du jour et l'heure. Et donc, il y a un tableau où vous avez chaque jour à quelle heure les poèmes ont été écrits. Ça m'intéressait. Parce que j'imagine, en tant que lecteur, me dire, là, on est jeudi, il est 9h48.
Quel poème, je vais dire?
Y a-t-il un poème qui a été écrit un jeudi à 9h48? Et est-ce que tous les jeudis 9h48 du monde ont une résonance entre eux? Peut-être que ce poème, qui est une petite encoche dans le temps, traverse, on verra.
Dans Vote Blanc, il y a un poème qui s'appelle Vote Blanc. Je ne sais pas qui vous a inspiré Vote Blanc, mais vous lui avez écrit un poème qui s'appelle Vote Blanc. Nous en avons marre de voter à tout va et d'être déçus. La prochaine fois, nous irons plutôt au cirque ou voir tes parents dans la Drôme. Regarde, je te fais un topo. On va chez tes parents. Sur le chemin du retour, on va au cirque. Et juste avant d'arriver à la maison, on passe par l'école maternelle pour voter blanc. On est d'accord? On se met d'accord? On vote blanc tous les deux? Tu dis oui. Oui, mais tu sais très bien que dans l'intimité de l'isoloir, tu peux encore faire ce que tu veux. Ça, c'est un des poèmes. C'est-à-dire que c'est aussi lié à la vraie vie. Hein. C'est pas éthéré. C'est ça, moi, qui m'a touché dans vos poèmes.
Oui, ce sont des poèmes en prose, pour la plupart. En fait, ce qui était assez troublant aussi, c'est que ils ont la vitalité des gens venus me voir. C'est pour ça que c'était important pour moi de poser ces questions les quelques mois après aux visiteurs, parce que c'est une aventure collective. Et c'est très important pour moi de le dire. Inscrire ce cabinet dans la ville, dans le monde, c'est une tentative de partager de la poésie au quotidien. Et l'échange qui a eu lieu, les 250 personnes qui sont venues, ont prouvé que on avait envie et besoin de vivre cette poésie au quotidien. Et c'est grâce à eux que ces poèmes sont nés. C'est eux qui ont inspiré ce vote blanc.
C'est ça qu'on peut lire. Et c'est vraiment ça qu'on peut découvrir dans l'adresse. Donc, les rendez-vous du déversoir, c'est chez Segers. Les impromptus en 30 secondes. Là, vous répondez très, très vite.
Oh, wow.
Vote blanc, vous votez?
Oui.
Blanc?
Non.
Vous vous écriviez quoi avec Christian Bobin? Il paraît que vous vous écriviez choses.
Des petites cartes. Christian Bobin, en plus d'être un bon écrivain, a une voix incroyable que vous pouvez écouter partout et une très belle écriture.
Orelsan ou PNL?
PNL.
Léo Ferré ou Barbara?
Waouh.
Oui, c'est dur.
Barbara.
Rimbaud ou Voltaire?
Rimbaud.
Balzac ou Flaubert?
Ah, Balzac.
René Char ou Apollinaire?
Apollinaire.
Goldman ou Michel Berger?
Goldman.
Véronique Sanson ou France Gall?
Sanson.
Aya Nakamura qui chante Piaf au JO, vous dites oui?
Oui.
Le duo que vous rêvez de chanter, avec qui vous rêvez de chanter?
Vivant ou mort?
Les deux.
Oh punaise. Ah, je colle sur la musique, c'est incroyable. Mais Ferré, j'aimerais bien voir. Non, Bob Dylan.
Bob Dylan. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi?
J'aimerais fraternité quand même en ce moment.
Et Dieu dans tout ça, Arthur Teboul?
Présent.
Très présent chez vous.
Ouais.
L'adresse, les rendez-vous du déversoir, c'est chez Segers. Franchement, c'est un très beau livre que j'ai envie d'offrir à des gens pour qu'avoir 5 minutes de poésie par jour, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup et belle journée.
Mais merci.